juste monter la claquette, ok, ça va.
Bon.
Très bien.
Quand vous serez prêt.
Hein? Une seconde.
Ouais, d'accord, entendu. Bah, monsieur le Président, le monde entier a noté avec intérêt le geste que vous avez posé il y a environ deux ou trois semaines de libérer 104 prisonniers politiques. Mais en même temps, je crois que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a interprété cette décision comme étant une concession que vous faisiez aux États-Unis et puis plus particulièrement à l'ambassadeur Young qui vous avait rendu visite un peu plus tôt.
Écoutez, monsieur Nadeau, je dois vous dire en toute franchise qu'il n'a jamais été question pour nous de concéder quoi que ce soit au gouvernement américain. Nous avons tout simplement voulu démontrer au monde que le gouvernement haïtien est capable de comprendre et de pardonner certains individus qui, pour des raisons plutôt fantaisistes, ont voulu renverser en somme le gouvernement haïtien.
Mais il n'en reste pas moins qu'au cours des années, il y a des milliers de personnes, on a même déjà avancé le chiffre de 30 000 personnes qui ont été emprisonnées depuis 20 ans en particulier. Vous en avez libéré 104. Est-ce que le président vous affirme qu'il ne reste plus de prisonniers politiques maintenant ici?
Je vous donne la garantie formelle qu'il n'y a plus un seul détenu politique en Haïti.
Mais j'ai eu l'occasion de lire depuis que je suis ici, par exemple, des lettres de personnes, des lettres adressées aux journaux haïtiens, notamment la lettre d'une dame l'autre jour qui demandait au gouvernement de confirmer, par exemple, que son mari est mort, puisque son mari ne faisait pas partie de ces 104 prisonniers que vous avez libérés aujourd'hui. Il y en a plusieurs comme ça, plusieurs haïtiens qui se demandent un peu ce qui est arrivé finalement de leurs parents qui ont été arrêtés au cours des années.
Oui, je pense que de ce côté-là, vous avez été pris de vitesse. En ce qui a trait à ce chapitre, je vous demanderai de vous référer aux récentes déclarations faites par le ministre de l'Intérieur.
Oui, mais M. Gentil, je crois, a dit qu'il y aurait des certificats de décès qui seraient émis.
Bien entendu, après enquête.
Et il n'est pas dans vos intentions dorénavant, donc, pour des délits d'opinion, d'emprisonner les gens. Vous voulez, et vous avez dit d'ailleurs dit que ça amorce un retour à la démocratie.
Exactement, une démocratie qui se fera progressivement.
Pour en revenir aux États-Unis, Président, est-ce qu'il est possible qu'un gouvernement dans cette partie du monde, que ce soit le vôtre ou celui du Guatemala ou du Honduras, de la République dominicaine, puisse se maintenir au pouvoir si les Américains ne donnent pas leur approbation, ne maintiennent pas leur approbation?
Je ne pense pas parce que je pense que le monde a eu l'exemple avec le gouvernement de Fémon Père qui a maintenu, malgré en somme toutes les difficultés qu'on a eues dans le passé avec non seulement la mafia internationale, mais avec certains membres du gouvernement américain d'alors.
Pour en revenir aux opposants à votre régime, vous savez qu'il y en a un certain nombre qui vivent aux États-Unis, au Canada, à Montréal même. Vous avez déjà, il y a quelques années, invité ces adversaires du duvalierisme à rentrer dans le pays. Est-ce que vous pourriez réitérer cette invitation maintenant? Et si vous le faites, quelle sorte de garantie, par exemple, pouvez-vous offrir à ces gens qui ne sont pas molestés en arrivant ou incarcérés?
Je pense que cette invitation a été relancée à nouveau le 22 septembre 1977 au balcon du Palais National. Et je donne la garantie à ces Haïtiens qui veulent venir en Haïti, se mettre à la disposition du gouvernement, qu'ils pourront librement reprendre leurs activités comme par le passé.
Mais, Président, est-ce que vous iriez jusqu'à décider, par exemple, que ces garanties pourraient être celles que présenterait la présence ici d'une commission internationale de contrôle pendant un certain temps?
Qu'est-ce que vous entendez par commission de contrôle?
Bien, je ne sais pas, peut-être il y a des idées qui ont été avancées, je ne sais pas, Amnesty International ou alors un organisme international qui pourrait, par exemple, ici, voir à ce que pendant 2 ans ou 3 ans, suivant le retour de ces Haïtiens, il ne leur arrive rien.
Je pense que ces organisations-là peuvent s'adresser aux organismes concernés et on pourra par la suite étudier la question beaucoup plus en détail et par la suite leur faire connaître disons, l'opinion du gouvernement haïtien.
Monsieur le Président, le jour où vous avez libéré 104 détenus, il y en a de ces 104, 11 qui ont été expulsés du pays. Vous venez d'inviter les opposants au régime à rentrer. Comment peut-on, par exemple, traduire ou expliquer la logique, finalement, d'une expulsion de 11 personnes et d'une invitation à d'autres de revenir?
Nous avons pu constater, en ce qui a trait à ces 11 détenus qui ont été libérés, qu'on avait en face de soi plutôt des irréductibles. Des types qui n'avaient qu'un seul but, jeter le pays dans le chaos, en semant la panique, par exemple en utilisant des bombes, et même en assassinant certains officiers du gouvernement. Or, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, et on semble constater ce qui se passe de nos jours à travers le monde. Nous n'avons pas besoin de telles situations en Haïti. Donc c'est la raison principale qui nous a porté à demander à ces messieurs de laisser le territoire.
Il y a une loi, je crois, c'est une loi qui a été adoptée il y a environ une dizaine d'années, qui considère que les communistes sont des adversaires du gouvernement et que les communistes sont passibles de mort. Est-ce que cette loi, vous avez l'intention de la maintenir ou est-ce qu'elle pourrait être abrogée un jour?
Cette loi-là est actuellement à l'étude. Nous y accordons la plus grande attention.
Monsieur le Président, nous allons aborder maintenant un autre secteur qui est celui de la vie politique dans le pays. Bon, revenons-en maintenant à cette décision que vous affirmiez dernièrement de vouloir revenir à des institutions démocratiques. Comment peut-on concilier un retour à la démocratie et puis votre statut de président à vie?
Nous sommes... Je dois dire que je ne suis pas, disons, le premier président à vivre en Haïti, d'autant plus qu'il y a eu 8 dans le passé.
Il y a eu votre père, je crois, qui est le premier à...
Non, pas le premier, il a été le 8e.
Le 8e président à vivre.
Le 8e président à vivre.
Ah, vous me prenez de vitesse une fois de plus.
Donc, autant dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la planète. En ce qui a trait à la présidence à vie, je dois vous dire que ceci a été ratifié par un référendum et, bien entendu, sanctionné par la Chambre législative.
Mais si, par exemple, vous voulez provoquer, organiser un retour à une vie démocratique ici, est-ce qu'on peut concevoir que la démocratie puisse véritablement s'exercer? Si vous, Excellence, vous n'acceptez pas un jour, par exemple, de, à l'occasion d'une campagne électorale, de remettre, si vous me permettez l'expression, votre titre en jeu.
Écoutez, nous voulons avant tout éviter une situation plutôt chaotique. Et je dois remonter, si vous le voulez, en 1957. Pour ce cas, à cette époque-là, le pays se trouvait au bord de l'abîme. Et je dois vous signaler également que, en moins d'un an, le pays a connu à peu près 4 ou 6 chefs d'État. Donc, le président Duvalier, connaissant très bien la mentalité, en somme, de l'haïtien, a voulu, avant tout, avoir une situation tout à fait stable, afin de solutionner les problèmes d'ordre économique et social.
Et c'est comme ça que, finalement, ce référendum l'a consacré comme président à vie.
Exactement.
Mais, si vous permettez, avec tout le respect que je vous dois, Excellence, je vous repose tout de même la question. Est-ce qu'il n'est pas concevable, un jour, que le président Jean-Claude Duvalier soit candidat dans une élection? Est-ce que vous éliminez tout à fait cette perspective?
Non, c'est pas que ce soit impossible. Mais je pense qu'il est encore trop tôt.
Qu'en Quant à la, quand vous parlez d'un retour à la démocratie, vous pensez donc peut-être à une vie de parti politique. Est-ce qu'il serait possible, vous étant président, que, par exemple, pour la Chambre des députés, il y ait différentes tendances qui se confrontent à l'occasion d'une élection, un parti conservateur, un parti plus progressiste. Est-ce que c'est une chose qui est concevable?
C'est pourquoi je vous ai dit il y a quelques minutes que la démocratisation devra se faire progressivement. Parce que vous avez pu vous rendre compte que, avec la multiplicité des partis un peu partout à travers le monde, ça n'a rien donné. Il n'y a eu que des problèmes, en somme. Vous n'avez qu'à voir actuellement ce qui se passe en Italie.
Oui, évidemment, s'il s'agissait de transposer ici le modèle italien, ça serait certainement pas une amélioration.
Exactement.
Président, vous savez que depuis plusieurs années, quand on pense à Haïti, on pense dans le monde aux tontons Macoutes. Et il est exact que les tontons Macoutes sont beaucoup moins actifs depuis que vous êtes président qu'avant. Mais maintenant, on ne parle plus de tontons Macoutes, on commence à parler des léopards. Est-ce que vous pourriez nous dire si les léopards n'ont pas finalement remplacé, comme protection du président, les tontons Macoutes qui étaient bien nombreux et actifs sous votre
terre. Je pense que de ce côté-là, on vous a plutôt mal renseigné. Les léopards constituent plutôt une force contre, par exemple, la guérilla. Et je dois vous dire également que j'ai pris cette initiative, c'est parce que j'ai été témoin des difficultés que le président Duvalier a eues. Il a dû faire face dans le passé, par exemple, à 11 invasions sans compter les invasions avortées. Donc, nous avons dû prendre, disons, cette décision afin, non pas d'intimider ceux qui se trouvent à l'extérieur, mais, disons, plutôt dans le but de les dissuader.
Mais les léopards sont quand même pour vous une garde extrêmement fidèle qui pourrait peut-être un jour bloquer un soulèvement dans l'armée. C'est un peu aussi comme ça qu'on voit les choses de loin.
Soulèvement de l'armée, je ne vois pas comment, d'autant plus que nous avons plutôt une politique préventive et je ne vois pas comment l'armée pourrait se soulever, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu de cas semblable dans le passé.
Monsieur le Président, quand on pense à ces années qui viennent de se passer sur le plan politique et sur le plan de l'organisation de la présidence, on perçoit deux camps. Il y a les jeunes, ceux qui vous entourent, et les vieux, j'ai même eu d'ailleurs un jour dans un journal le mot dinosaure, les plus vieux qui sont là depuis plusieurs années. Est-ce qu'en fait, il y a deux camps qui, à l'heure actuelle, exerce une sorte de concurrence politique du camp de conseillers, de ministres qui vous entourent?
Je ne pense pas qu'il y ait de lutte politique à proprement parler entre les vieux et les jeunes. Simplement plutôt un conflit de génération, c'est tout. Je pense que les jeunes actuellement voient les choses différemment, tandis que les vieux sont habitués à une certaine routine.
Et vous privilégiez les jeunes, forcément.
Bien entendu.
Vous savez aussi, Président, qu'on a dit qu'au moment où vous avez pris le pouvoir, votre mère jouait dans les affaires du pays un rôle extrêmement important. On a même dit, finalement, que c'est elle qui gouvernait par vous dans les deux ou trois premières années. Est-ce que Madame Duvalier, Madame votre mère, est encore très associée aux affaires de l'État?
Madame Duvalier joue plutôt le rôle de conseillère. Étant donné que c'est une femme qui a énormément d'expérience, parce que elle a été témoin des différentes luttes du président Duvalier, donc en certaines occasions, il m'arrive parfois de la consulter, c'est tout.
Monsieur le Président, nous allons maintenant aborder un troisième chapitre qui est celui de la situation économique dans votre pays. Haïti est considéré comme étant un des quelques pays faisant partie du cinquième monde. C'est un pays très très pauvre. Moi je me souviens de vous avoir entendu dire, au moment où vous avez prononcé votre premier discours devant la Chambre des députés, que si votre père avait fait la révolution politique, vous aviez l'intention de faire la révolution économique. 6 années plus tard, Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est faite, cette révolution économique?
Je peux dire que la révolution économique est... On ne peut pas dire que la révolution économique a été, disons, concrétisée à 100%. Elle est en voie, parce que nous avons pas mal de problèmes à solutionner. Il fallait avant tout, par exemple, donner une infrastructure indispensable au pays dans le but de promouvoir l'économie et en même temps d'intéresser les investisseurs étrangers.
Et ce sujet-là, si vous permettez, Monsieur le Président, on a dit très souvent que le pays était bradé, que c'était vraiment ici le royaume de l'investisseur. N'importe qui arrivait avec un peu d'argent pouvait s'installer, que les conditions finalement étaient probablement les plus favorables au monde.
Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et je dois vous dire que, au point de vue réalisation, ensemble, vous devez constater que nous avons pu réaliser la route du Nord, la route du Sud, qui est en voie d'achèvement, la route de Jacmel. Actuellement, il y a la centrale de Vareux qui est en voie d'achèvement également. Je vous donne les réalisations les plus importantes. La centrale hydroélectrique de Lourdes, que nous sommes en train de monter grâce à la coopération allemande. Il y a le centre d'orientation professionnelle. Donc ce sont là les réalisations. Enfin, je vous ai donné les plus importantes. Il y a d'autres réalisations qui sont en voie. Par exemple, la construction du Havre de Port-au-Prince.
C'est un fait qu'il y a beaucoup de projets qui sont en marche maintenant. Sauf que votre pays, qui a déjà été un pays parmi les plus importants exportateurs de sucre, par exemple, est obligé maintenant d'en importer. De même qu'il importe du riz. C'est une chose qui est tout à fait nouvelle, ça. Et ça ne nous apparaît pas être un signe de dynamisme économique que vous deviez maintenant importer du sucre.
Le problème qui s'est posé pour nous, c'est que, d'un côté, le pouvoir d'achat de la population a augmenté. Et en certaines occasions, nous avons dû faire face à des sécheresses terribles, en particulier dans le nord-ouest. Et nonobstant également, des conditions climatiques et également le procédé habituel que nos paysans ont l'habitude de... utilisent jusqu'à présent.
Vous pensez, par exemple, je crois qu'on pourrait associer à ce que vous venez de dire, le problème de la désertification, de l'érosion, c'est un problème qui est un problème devenu très grave ici. Est-ce que, pour que votre pays ne devienne pas un Sahel des Caraïbes, par exemple, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour inciter la population à ne plus couper d'arbres et même éventuellement à reboiser?
À ce sujet, nous avons pris toutes les dispositions et je dois même vous dire que les soi-disant tontons m'écoutent et même les léopards participent à la campagne de reboisement et en collaboration avec les paysans des zones affectées. Et je dois dire également que nous sommes aidés par exemple par le gouvernement canadien et le gouvernement américain. Et actuellement, nous sommes en train d'expérimenter certains types de combustibles que le paysan pourra utiliser à l'avenir.
Parce que ce qu'il faut dire aux téléspectateurs canadiens, je pense que si finalement il y a de moins en moins de bois, c'est que les paysans se servent des arbres pour fabriquer du charbon de bois et pour faire cuire leur nourriture. Alors vous pensez donc à d'autres types de combustibles?
Exactement. Et actuellement, nous sommes en train d'expérimenter un aggloméré fabriqué ensemble avec des produits locaux.
Et qui pourrait éventuellement remplacer le charbon de bois comme combustible. Un autre problème qui est évident dans votre pays, Monsieur le Président, c'est celui de l'écart dans les revenus. Il y a des gens ici qui font beaucoup d'argent, il y a d'autres Haïtiens qui gagnent $1 par jour à travailler souvent pour ces gens qui font beaucoup d'argent. Est-ce que la révolution économique, ça ne veut pas dire aussi une sorte d'égalisation des revenus, en tout cas une meilleure distribution des revenus dans le pays?
La révolution économique que je prône vise au bien-être général de toute la population. Bien entendu, nous savons très bien qu'il y a des situations plutôt anormales que nous pourrons améliorer, mais éliminer au fur et à mesure.
De quelle façon, par exemple, si vous me permettez de vous demander, de quelle façon pourrez-vous faire en sorte que le paysan haïtien, le travailleur ou l'ouvrier haïtien puisse gagner un peu plus?
En somme, dernièrement, nous avons accordé une nouvelle augmentation aux salariés. Ils ne touchent plus $1, mais $1.60.
C'est en augmentant ce salaire minimum que vous allez contribuer à égaliser un peu les revenus, c'est
ça? Non seulement le salaire minimum, mais il faut avant tout que le pays puisse produire davantage.
Oui.
Donc le problème le plus important pour nous, c'est d'arriver à produire au maximum.
Monsieur le Président, vous avez trouvé cette question assez impertinente, et je crois qu'elle l'est d'ailleurs. Vous venez de parler d'une égalisation des revenus. Plusieurs personnes croient que finalement, peut-être pourriez-vous donner l'exemple. C'est qu'on parle par exemple d'une frugalité souhaitable de la présidence. On a parlé de ce bateau que vous allez acheter, de ces voitures que vous avez. Comment par exemple peut-on justement concilier cette vie qui est la vôtre avec la nécessité d'améliorer la condition de l'haïtien?
Vous devez dire que le gouvernement haïtien a toujours pris en considération l'état de la population. Vous ignorez cependant, en somme, ce que le gouvernement haïtien, je ne parle pas du mien, mais le gouvernement dont père a trouvé à son arrivée au pouvoir en 1957. À l'accession du président Duvalier au pouvoir, il a trouvé les caisses de l'État complètement vides, avec des dettes extérieures qui se chiffraient à des millions de dollars. Et durant les premiers mois, le président Duvalier a dû même consentir un emprunt dans le but de est-ce qu'on pourrait reprendre?
Oui, certainement. Oui. D'accord, entendu.
De souffler un petit peu.
Oui, d'accord, entendu. Parfait. Je pourrais reprendre. On peut. Oui, on peut. En coupe, hein? Oui, en coupe, d'accord.
Ça tourne, Lucas?
Ça va, ça tourne? Bien.
Très bien.
Vous n'êtes pas sans savoir, Président, que dans le monde, il y a des gens qui trouvent un peu étonnante cette décision que vous avez prise, par exemple, de vous acheter un gros bateau alors que le pays n'est pas très très riche, que vous ayez, dit-on, des voitures sport. Comment pouvez-vous expliquer ça?
Monsieur Nadeau, je vous dirai ceci. Tout d'abord, je n'ai pas de voiture de sport. Et deuxièmement, je pense que les gens ignorent tout à fait quels sont les sacrifices que j'ai dû consentir. Et à mon tour, je demanderai à ces éternels détracteurs, en somme, qui occupaient les avenues du pouvoir bien avant le président Duvalier, qu'est-ce qu'ils ont laissé, après leur passage à ce pays?
Vous voulez dire que quand votre père a pris le pouvoir, les caisses étaient vides?
Complètement.
Et elles ont été reconstituées depuis?
Le président Duvalier n'a trouvé que des dettes à son arrivée au pouvoir. Il a dû même consentir un emprunt dans le but de payer les employés d'État.
Vous avez dit tout à l'heure que vous avez consenti de lourds sacrifices et que pour cette raison-là, finalement, ces personnes dont vous parlez ne devraient pas vous reprocher d'avoir un bateau. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Parmi ces lourds sacrifices, on se dit très souvent peut-être que un homme qui prend le pouvoir à l'âge de 19 ans Et qui en a maintenant, je crois, vous avez
26
ans, a donc passé cette année d'une vie que les autres jeunes occupent habituellement à s'amuser, à aller dans les boîtes et ainsi de suite. Est-ce que pour vous, ça a été difficile que c'est cette année de pouvoir?
Je ne pense pas, d'autant plus que j'ai trouvé la tâche vraiment exaltante. Et en tant que fils du président Duvalier, nationaliste farouche, et conscient des différents problèmes auxquels le pays est confronté, je me suis jeté à fond dans la bataille dans le but de solutionner, non pas dans l'immédiat, parce qu'il faudra quand même un certain temps, disons, les principaux problèmes d'ordre économique et social de la population.
Excellence, quand il y a eu, par exemple, dans le Nord-Ouest, une sécheresse, si le gouvernement avait pris de l'argent dans les caisses pour le donner aux populations qui crèvent de faim, peut-être qu'à ce moment-là, finalement, dans le monde, on aurait noté avec intérêt une décision comme celle-là.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le tout de donner de l'argent à la population. Je me rappelle d'un proverbe chinois. C'est un pêcheur qui avait l'habitude de se livrer à ses activités et qui voyait dans quel état se trouvaient un de ses compatriotes, l'aidait bien entendu à survivre en lui donnant quelques poissons. Et un beau jour, le pauvre qui lui dit, écoute, c'est bien de me donner de temps en temps quelques poissons, mais apprends-moi également comment pêcher.
Je veux dire que dans le Nord, finalement, ou dans les endroits où on a besoin d'aide, ce que vous voulez plutôt réaliser, c'est d'installer une infrastructure pour que les gens apprennent à s'en sortir eux-mêmes.
Exactement.
On a aussi dit, ces mêmes personnes qui ne vous aiment pas beaucoup, les adversaires par exemple du duvalierisme, ont dit cependant que la famille, votre famille a amassé des sommes fabuleuses qu'elle a placées dans des comptes ailleurs en Suisse. Est-ce que le président Duvalier est un homme riche?
Je ne pense pas. Disons que nous pouvons vivre décemment. Mais comparativement à certains individus, nous sommes loin de l'être.
Ce que vous dites, c'est que vous êtes moins riche que certains Haïtiens qui vivent ici, qui ne font pas de politique.
Bien entendu.
Monsieur le Président, quels sont les chefs d'État que vous admirez le plus? Soit encore au pouvoir ou qui ont déjà occupé le pouvoir?
Bien entendu, il y a eu le président de Gaulle.
Pourquoi?
Parce que c'est un homme que j'estime digne d'un certain respect. Parce que, vu la situation qui sévissait en France, et durant la Deuxième Guerre mondiale, il a eu le courage de prendre ses responsabilités alors que d'autres pactisaient avec l'armée allemande.
Le président de Gaulle et qui d'autre?
Il y a le président du Kenya, M. Kenyatta, et également le maréchal Tito de la Yougoslavie.
Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà, par exemple, de témoigner d'une façon ou d'une autre, soit au président Kenyatta ou au président Tito, l'admiration que vous leur portez?
Je n'ai pas eu cette opportunité.
Mais vous la prendrez peut-être un jour, cette chance, cette occasion.
J'espère bien.
En terminant, Monsieur le Président, dites-nous, s'il vous plaît, de quelle façon vous concevez les relations entre votre pays et le Canada et le Québec. Quel type de relations voudriez-vous voir se développer entre le Canada et Haïti, entre le Québec et Haïti?
En somme, entre le Canada et Haïti, vous savez déjà que le gouvernement canadien a consenti le financement de certains projets, en particulier celui de la plaine d'Optigoire. Nous venons de signer également un prêt pour, je crois, l'achat d'équipements routier. Et autant que je me rappelle, le gouvernement canadien, je crois, est disposé à nous aider à, disons, contrôler l'érosion en Haïti.
Alors il y a déjà des choses qui existent et qui marchent entre le Canada et Haïti, et avec le Québec.
Je dois dire que de ce côté-là, la présence du Québec ne se fait pas sentir quant à présent. Mais je crois que cette province-là, étant donné que nous partageons la même langue, puisse nous aider à l'avenir de façon à solutionner certains problèmes d'ordre d'infrastructure.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Je vous en remercie.